VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 18 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, arrivés sur place hier des vaccins contre le virus Ebola.
Au Burundi, les électeurs ont voté en nombre hier lors du référendum sur la réforme constitutionnelle.
En République centrafricaine, un casque bleu mauritanien a été tué dans une attaque des milices anti-Balaka.
Au Burkina Faso, de nouvelles dispositions sécuritaires promises par le président Roch Marc Christian Kabore, après l'assassinat de représentants de l'État dans le nord, région frontalière du Mali.
Le président américain Donald Trump a assuré hier que les préparatifs pour son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un suivent leur cours.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, c'est une véritable course contre la montre qui a été engagée pour contenir la propagation du virus Ebola. Les vaccins sont arrivés sur place jeudi et la mobilisation se poursuit, Bagassikoura.
Une réunion d'urgence a été convoquée ce vendredi par l'OMS pour discuter des risques de propagation de la maladie sur le plan international. Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola de la RDC depuis la détection de la maladie en 1970, mais cette fois-ci, elle présente le plus des risques de propagation parce que plusieurs bateaux de transport public lient chaque jour l'Équateur à Kinshasa, la capitale de 10 millions d'habitants. On a déjà recensé 44 cas suspects d'Ebola, dont 23 morts. Mbandaka, ville d'un million d'habitants où un cas a été confirmé, est désormais la priorité numéro un pour éviter que l'épidémie ne prenne des proportions incontrôlables. Un vaccin expérimental mais très efficace est en train d'être déployé dans la région. Les agents de santé seront les premiers à être vaccinés selon l'OMS, mais pour être efficace, ce vaccin doit être conservé à moins 80 degrés dans cette région de l'Équateur où la température tourne autour de 30 degrés.
Les Burundais ont voté en nombre hier lors d'un référendum encadré de près par le régime sur une vaste révision constitutionnelle destinée, selon les analystes, à renforcer le pouvoir du président Pierre Nkurunziza et à lui permettre de rester éventuellement en fonction jusqu'en 2034. Les Burundais ont afflué très tôt dans les 11 076 bureaux de vote, fortement incités en ce sens par les autorités. Un fort déploiement sécuritaire avait été prévu et aucun incident n'a été recensé. Le dépouillement du scrutin a déjà commencé et la commission électorale promet de publier les résultats après avoir reçu tous les procès-verbaux, sans dire combien de temps cela pourrait prendre.
En République centrafricaine, un casque bleu mauritanien a été tué et 8 blessés, dont 3 grièvement hier, dans une attaque d'un convoi de l'ONU par des milices anti-Balaka, a annoncé l'armée mauritanienne en affirmant que 40 assaillants avaient été tués. Selon Nouakchott, l'attaque a eu lieu au niveau du village d'Alindao, à quelques 500 km à l'est de Bangui.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a promis hier de nouvelles dispositions sécuritaires dès les semaines à venir après l'assassinat de représentants de l'État dans la région du Nord, frontalière du Mali, en proie à des attaques djihadistes. C'était à l'issue d'une rencontre du Conseil supérieur de la Défense et de la Sécurité nationale. Lundi, le préfet d'Oursi, une localité frontalière du Mali, a été abattu devant sa résidence par des djihadistes présumés. Un bilan officiel a fait état de 133 morts dans 80 attaques dans cette région.
Au Mali, la date du 29 juillet 2018 retenue pour les élections sera respectée, a assuré le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il parlait hier lors d'une conférence de presse dominée par des questions portant sur les cartes d'électeurs biométriques qui seront disponibles en juin, les innovations de la nouvelle loi électorale et le vote des militaires, sans oublier la question sécuritaire. De Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Les 8 472 000 électeurs maliens iront aux urnes le 29 juillet prochain. Baba Maman Maïga, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Le matériel électoral étant sur place, tout ce qui nous reste à acquérir, c'est les cartes d'électeurs biométriques pour lesquelles beaucoup de gens aussi avaient des soucis. Début juin 2018, Inch'Allah, la première semaine, nous allons acquérir et commencer la distribution des cartes d'électeurs biométriques. Au-delà du fait secrétaire, je ne vois pas ce qui vous empêchait d'aller aux élections.
Le consensus qui prévaut entre les acteurs du processus électoral facilite le travail des organisateurs.
On a prévu dans la loi électorale une plus grande implication des partis politiques dans la création, l'emplacement, la gestion. Les partis politiques vont intervenir pour signer et contre-signer dans le cadre de la formation majorité opposition le bulletin que chaque électeur prendra pour mettre dans l'urne.
Baba Mahaman Maïga ne voit aucune entrave à la tenue du premier tour de la présidentielle au Mali.
Ce qui est sûr, toutes les mesures sont en train d'être prises afin que tous les Maliens, les plus de 8 millions d'électeurs qui disposent de la qualité de pouvoir voter, puissent voter.
En tout cas, la situation sécuritaire au centre et nord du pays inquiète. À cela, il faut ajouter le fait que les cartes d'électeurs ne sont pas encore disponibles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La cour de la CEDEAO s'apprête à examiner une plainte contre une loi sierra-léonaise bannissant des établissements scolaires les filles enceintes. Précision de Morgane Guiriec.
La cour ouest-africaine, siégeant à Abuja, au Nigeria, a confirmé avoir reçu la plainte de l'ONG Equality Now et d'autres organisations. Selon son porte-parole, elle accordera à la Sierra Leone un délai de 30 jours pour y répondre. Les autorités sierra-léonaises avaient décidé en 2015 de bannir des écoles les jeunes filles tombée enceinte. La mesure avait été prise après qu'une multiplication des cas de viol et d'abus durant l'épidémie d'Ebola a abouti à de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Il s'agissait, selon le gouvernement sierra-léonais, d'éviter aux jeunes filles enceintes l'embarras d'aller en classe dans leur état. Il fallait aussi éviter que leurs camarades les imitent et tombent enceintes à leur tour, avaient expliqué les autorités sierra-léonaises. Mais pour l'ONG Equality Now et ses organisations partenaires, la mesure intensifie la stigmatisation des jeunes filles enceintes et entrave leurs études. La plainte déposée à Abuja est une opportunité pour la CEDEAO de clarifier les obligations des États vis-à-vis des droits des filles enceintes, a expliqué Sabrina Matani, chercheuse Amnesty International. Les jeunes filles enceintes font l'objet d'une discrimination similaire dans divers pays africains, a souligné la chercheuse.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé la suspension de son programme de réinstallation de réfugiés présents au Soudan. Une décision qui fait suite à des accusations de fraude. Des détails avec Abdourahmane Dia.
L'OHCR a affirmé avoir lancé 2 enquêtes en février et en mars au sujet de ces allégations de fraude sur le programme de réinstallation. Dans un communiqué, le représentant du HCR au Soudan a fait part d'allégations basées sur des informations venant de réfugiés. Si ces mauvais agissements sont confirmés, les personnes responsables doivent s'attendre à de lourdes conséquences, a ajouté Noriko Yoshida. Le HCR a lancé un appel d'aide internationale de plus de 250 millions de dollars en 2018 pour financer ses opérations au Soudan, qui accueille quelque 1 200 000 réfugiés d'Érythrée et d'Éthiopie. Le HCR a réinstallé 600 réfugiés dans le cadre de son programme de 2017, a déclaré Babar Balok, porte-parole de l'agence onusienne à Genève. La réinstallation ou relocalisation dans un pays tiers est une solution pour les réfugiés les plus vulnérables, ne pouvant pas retourner chez eux ni s'intégrer dans le pays où ils ont trouvé refuge. Les enquêtes pour fraude doivent être menées par le bureau de l'inspecteur général du HCR.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le Sénat a entériné par un vote de 54 contre 45 la nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA. Elle devient ainsi la première femme à diriger ce service de renseignement des États-Unis en remplacement de Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d'État américain. Ce vote met fin à un processus au cours duquel les sénateurs américains sont revenus sur les anciennes méthodes d'interrogatoire de la CIA dans lesquelles Gina Haspel avait été impliquée. 6 démocrates ont voté pour et 2 républicains contre.
Le président américain Donald Trump a affirmé hier que les préparatifs pour sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un suivaient leur cours. M. Trump a aussi assuré que l'homme fort de Pyongyang resterait au pouvoir s'il renonçait à l'arme nucléaire. Des détails avec Irénée Herman-Umbo.
En dépit des doutes que fait planer Pyongyang sur le face-à-face historique prévu le 12 juin à Singapour, rien n'a changé du côté américain. On ne nous a rien dit, a déclaré Donald Trump, qui renchérit en précisant que les équipes des deux pays étaient en contact pour l'organisation de la rencontre. Le président américain a cependant souligné que tout accord se fera avec Kim Jong-un. Dans le même temps, Pyongyang proteste contre l'exercice annuel Mass Thunder, un entraînement militaire en cours entre les armées sud-coréennes et américaines dans la péninsule. Si la rencontre a lieu, elle aura lieu et si elle n'a pas lieu, nous passerons à l'étape suivante, fait noter Donald Trump qui conclut par sa formule consacrée. Nous verrons.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui tire à boulet rouge sur Israël depuis le carnage de Gaza, accueille aujourd'hui à Istanbul des dirigeants du monde musulman. Il veut une condamnation de l'État hébreu, mais peu de mesures concrètes sont attendues en raison de divisions et de rivalités au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Monsieur Erdogan doit également s'adresser à un immense rassemblement populaire de soutien aux Palestiniens, auquel il a appelé sous le slogan de « Halte à l'oppression ».
Le président russe Vladimir Poutine et son allié syrien Bachar al-Assad se sont rencontrés hier en Russie. Ils ont estimé à l'issue de ces entretiens qu'il est temps d'accélérer le processus politique pour mettre un terme à 7 ans de conflit en Syrie et passer à la reconstruction et au retrait des forces étrangères impliquées. Le président Poutine reçoit aujourd'hui à Sotchi la chancelière allemande Angela Merkel et dans moins d'une semaine le président français Emmanuel Macron à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les perspectives de croissance mondiale ont été revues à la hausse et tablent désormais sur plus de 3% en 2018 et 2019. Il s'agit d'une progression chaque année de 0,2% et de 0,1% par rapport aux dernières prévisions datant de fin 2017. Toutefois, Elliot Harris, secrétaire général adjoint à l'ONU pour le développement économique et chef économiste de l'organisation, conseille de s'attaquer d'urgence à un certain nombre de défis politiques, les menaces contre le système commercial multilatéral, les fortes inégalités et la nouvelle augmentation des émissions de carbone. D'après le FMI, la croissance économique au Cameroun culminera à plus de 4% en 2018, en progression de 1% par rapport à 2017. Le rapport sur les nouvelles perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne souligne la remontée des cours mondiaux du brut et de la production de l'or noir et des retombées des ajustements institutionnels. L'ABAD estime aussi que les retombées positives des infrastructures vont favoriser cette croissance. Le Nigeria a accordé à la société China Civil Engineering Construction Corporation un contrat de plus de 6 milliards de dollars. C'est pour la construction d'un tronçon de la ligne de chemin de fer reliant la capitale économique Lagos à Kano. Les travaux de construction devraient durer entre 2 et 3 ans.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé sa liste des 23 pour le mondial.
Florian Thauvin de l'Olympique de Marseille et Nabil Fekir de l'Olympique lyonnais sont dans la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps. Le sélectionneur français n'a pas en revanche convoqué Dimitri Payet, blessé jeudi en finale de l'Europa League en défense. Deux joueurs blessés cette saison, Benjamin Mendy de Manchester City et Djibril Sidibé de l'AS Monaco rétabli, sont bien dans les 23. Au milieu, on note aussi une petite surprise avec la présence de Steven Nzonzi du FC Séville qui pousse Adrien Rabiot du PSG parmi les 11 suppléants. En attaque, Deschamps a évidemment fait confiance à Antoine Griezmann autour de joueurs comme Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Pour une nouvelle fois, pas de Karim Benzema.
Luis Rubiales, élu président de la fédération.
L'ex-défenseur du Levante et ancien président du syndicat des joueurs espagnols, 40 ans, a été élu par l'Assemblée générale de la Fédération espagnole de football dès le premier tour de scrutin avec 80 voix contre 56% pour Juan Luis Larrea, trésorier. trésorier de l'époque Villa, devenu président par intérim après les démêlés judiciaires de l'ancien patron du football espagnol. Rubiales aura pour défi de remettre sur pied une institution grandement ébranlée par les ultimes années de l'interminable ère Villa, qui a régné de 88 à 2017 et plusieurs mois de vacances du pouvoir.
Casillas prolonge à Porto.
Le gardien espagnol a prolongé d'une saison avec le FC Porto, club avec lequel il vient d'être sacré champion du Portugal. Le portier, qui fêtera ses 37 ans dimanche, avait déclaré récemment qu'il était réceptif à une offre de Porto où il a rebondi en juillet 2015 en quittant le Real Madrid. Il a accepté de revoir son salaire à la baisse afin de rester une année de plus chez les Dragons du Nord du Portugal. Iker Casillas était jusqu'ici le joueur le mieux payé du championnat portugais avec un salaire brut de 7,7 millions d'euros par an.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la CENI en République démocratique du Congo est en tournée dans l'est de dans l'est du Congo pour une campagne de sensibilisation sur la machine à voter, en particulier à Goma, capitale du Nord Kivu. Il a rencontré les étudiants et les acteurs politiques de la province. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Goma, Charlie Kasereka.
Malgré les multiples contestations suscitées par la machine à voter voulue par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, son président Corneille Nangaa insiste et appelle tous les Congolais à s'y préparer.
En fait, je n'insiste pas sur la machine, c'est une décision prise par la CENI et nous allons voter avec pour raison de fiabilité, simplicité. Cette PG a attiré leur attention sur le fait qu'il ne nous reste que 37 jours pour que nous lancions le processus ou l'opération d'inscription des candidatures.
Les acteurs politiques du Nord Kivu précisent que la date du 23 décembre est considérée comme la dernière chance pour la CENI, explique Adalbert Kiongi, cadre de la coalition des partis politiques de l'opposition qui émet aussi une mise en garde à Corneille Nangaa.
Nous sommes en train de contester cette machine, et nous, mais jusque là nous ne demandons qu'une façon des élections et de la manière que nous l'avons fait en 2011 et 2016. Nous considérons que le président de la CENI est violé à la majorité présidentielle. D'après ce qu'il vient de nous présenter, nous nous en tenons à la date du 23 décembre. Et s'il n'y a pas d'organisation de 23 décembre, je pense que Corneille Nangaa sera l'homme le plus malheureux en République démocratique du Congo.
Gain d'État, économie et l'innovation dans la manière de faire, comment Cyril Mouronga, porte-parole au Nord Kivu de la majorité présidentielle au pouvoir.
La machine à voter qui apporte non seulement une innovation par rapport au gain de temps, mais par rapport aussi au gain de moyens, avant le bulletin se présenter comme des dictionnaires et comme des bibles où l'électeur avait de la peine à identifier son candidat.
Au cours de ces échanges, la question de l'identification des Congolais de l'étranger a été soulevée. Corneille Nangaa, calme et léger, en parlant du début juillet pour cette opération.
Nous avons prévu l'enrôlement des Congolais de l'étranger en partir de juillet. Nous en sommes là. S'il y a une option contraire à prendre, ça ne dépend pas de la CENI, ça dépend du Parlement.
Mais plusieurs analyses prouvent que techniquement cet exercice est impossible vu l'état qui reste par rapport au calendrier électoral qui prévoit la présidentielle dans 6 mois. Charles Kasereka, Goma, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Cameroun, et nous vous le disions hier, les évêques du pays tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Ils appellent à une médiation entre le gouvernement et les indépendantistes pour éviter, disent-ils, une guerre civile inutile. Selon les Nations Unies, plus de 160 000 personnes ont fui leur domicile à cause de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest anglophone. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint Mgr Sosthène Bayemi, responsable de la communication à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.
Ce qui attire notre attention, c'est l'aggravation de la situation dans les deux régions, aussi bien du nord-ouest que du sud-ouest. sud-ouest qui vivent déjà depuis 2016 une situation de violence, mais on note une certaine radicalisation de toutes les parties et c'est ça qui inquiète davantage les évêques.
Que vous disent vos collègues dans les régions nord-est et sud-est du Cameroun? Est-ce que la situation vraiment est inquiétante au point d'attirer votre attention aujourd'hui?
Nos confrères qui sont dans la zone, qui nous décrivent chaque fois que nous nous rencontrons l'état réel de leur diocèse. Certains d'entre eux nous disent qu'ils n'ont même plus la possibilité d'aller dans certaines paroisses. Je prends le cas de l'évêque de Manfé, pareillement l'évêque de Kumba, qui ont vécu des situations réellement critiques et dangereuses. Ils nous font aussi état de déplacés. Énormément de populations sont déplacées, craignant des violences qui peuvent venir de n'importe quelle partie. Il y a aussi le fait que leur propre vie est même quelquefois mise en danger. L'évêque de Manfé meurt. Qu'à cela, moins d'une semaine, rentrant chez lui, il a été stoppé par une bande armée de ceux qui réclament la sécession. Ils l'ont sorti de la voiture, etc. Et il a fallu l'intervention d'un commandant qui est venu 30 minutes après pour qu'il soit libéré.
Vous pensez qu'on pourrait s'acheminer vers cette situation de guerre civile au Cameroun?
Oui. Oui. Si rien n'est fait, on peut arriver à une situation de non-retour. C'est possible. Nous n'en sommes pas encore là. C'est pourquoi nous estimons qu'une médiation s'impose pour que nous ne puissions pas avancer dans une situation de non-retour. Et les parties en place doivent dialoguer. C'est pourquoi les évêques estiment qu'une médiation s'impose maintenant pour qu'on amène aussi bien ceux qui réclament la sécession que l'État, qui est dans son droit de préserver l'intégrité du territoire, entre dans un dialogue qui puisse arriver à faire en sorte que les parties en place, et pour le bien du peuple, puissent s'entendre et résoudre le problème. Le problème sera résolu par les Camerounais.
C'était Mgr Sostène Bayemi, évêque d'Obala, dans le centre du Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Festival du film africain de New York a ouvert ses portes mercredi dernier. Cette année, le festival célèbre son 25e anniversaire avec un hommage particulier aux pionniers du cinéma africain, tout en marquant le passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération de cinéastes, et je cite Arzuma Compaoré, « plus que jamais dévoué à étendre notre compréhension du continent et de sa diaspora ».
C'était une ambiance des grands jours. Les organisateurs du Festival du film africain de New York ont mis les petits plats dans les grands lors d'une soirée d'ouverture haute en couleur avec la présence du maire de la ville et de nombreuses autres célébrités. Après une vidéo d'hommage de 5 minutes au célèbre réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo, décédé en février dernier, c'est sa compatriote et protégée Apolline Traoré qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal avec son film Frontières, une histoire qui retrace les aventures de 4 femmes à travers les frontières de 5 pays africains. Une ouverture symbolique pour la réalisatrice.
En fait, ça me touche particulièrement parce que mon premier festival ici, de mon court-métrage, Kounandi, était en 2004 que j'ai présenté ici. Donc aujourd'hui, avec mon deuxième long-métrage, je fais l'ouverture, donc vous pouvez comprendre que c'est vraiment un honneur.
Et si l'on se fie au dire des spectateurs, le film, par ailleurs déjà primé dans de nombreux festivals, a une fois de plus séduit l'audience, en particulier les Burkinabés présents dans la salle. Pour Rodrigue Ouattara, c'est la complexité du projet en lui-même qui l'a impressionné.
Elle a su mettre ensemble ce film, d'abord tourné dans presque 6 différents pays en Afrique, ce qui n'est pas totalement évident, mais elle a su le faire. Et je lui tire mon chapeau.
Rafiki Ali Baye est professeure de piano. Elle n'est pas burkinabé, mais elle était également dans la salle de projection.
Ce que je retiens vraiment de ce film, la chose la plus positive, c'est comment les gens peuvent avoir une chance d'agir en tant qu'être humain.
Fatou Zongo est une autre burkinabé. Elle est comédienne.
Je connais cette dame sur les plateaux. Je connais les œuvres. J'ai moi-même été comédienne pendant 2 mois ou 3 mois de tournage sur son plateau. Il y a des moments quand tu la regardes, tu te dis, ça ne vaut pas la peine, elle va abandonner. Mais non, elle n'abandonne pas. Pour moi, j'appellerai Apolline la combattante.
Pour Mayenne Bonetti, la fondatrice du festival, ce qui compte le plus, c'est le contenu des films.
La qualité de production n'est pas toujours le plus important. Ce qui compte, c'est de raconter une histoire. Quand c'est honnête et que ça a du sens, la production devient secondaire et tout le monde peut s'identifier.
Le film est aussi un écho au mouvement hashtag MeToo. Et qui, mieux que la star de la musique et activiste Angélique Kidjo, pour nous le rappeler.
Tant que la femme s'ouvrira aux mains des hommes, le MeToo mouvement continue. Et au lieu d'être un moment fort de discussion et de ralliement pour qu'on puisse respecter les droits des femmes, ça va être contre les hommes. Parce qu'ils ont un momentum, il ne faut pas le laisser passer.
Du western au film comique en passant par le film expérimental ou musical, la 25e édition du Festival africain de New York promet déjà des moments inoubliables de célébration du 7e art.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Toujours aux États-Unis, volent des numéros de cartes de crédit en ligne. D'autres, en revanche, le font directement à partir de la carte. D'après les services secrets américains, ces escrocs volent plus d'un milliard de dollars par an. Mais un groupe d'étudiants de l'Université de Floride a mis au point un dispositif qui peut mettre un terme à ce type de crime. C'est un reportage de George Putic, de La Voix de l'Amérique, récit de Gabi Dorsil.
Les cartes de crédit ultramodernes ont des puces électroniques qui sont difficiles à falsifier. Cependant, beaucoup d'entre elles ont des bandes magnétiques qui permettent de les utiliser sur d'anciens lecteurs de cartes, surtout dans les petits magasins et pompes à essence. Et c'est là qu'elles peuvent être craquées, nous dit Patrick Trenor, professeur à l'Université de Floride.
Les cartes de crédit sont lues à l'aide de ce qu'on appelle un lecteur de cartes ou une tête de lecture. Une seule tête de lecture devrait être présente dans une fente de carte.
Les escrocs attachent leur propre lecteur sur ceux déjà existants. Et lorsqu'un client insère sa carte de crédit, le lecteur supplémentaire récupère toutes les informations nécessaires pour créer une copie parfaite. Ce type de crime est très répandu, surtout dans les grandes villes comme New York, où seulement 4 détectives sont formés sur ces nouvelles méthodes d'escroquerie dans les guichets automatiques. Le travail de ces détectives est devenu plus facile, cependant, avec la fabrication d'un appareil appelé Skim Reaper, inventé par un groupe d'étudiants de l'Université de Floride, sous la direction du professeur Patrick Trenor. Écoutons l'étudiant Nolan Scaife.
Nous sommes heureux d'être en mesure de produire quelque chose qui va freiner cette vague.
Le dispositif est composé d'une carte électronique 2 fois plus longue qu'une carte régulière. Le tout est attaché à un afficheur numérique. Lorsqu'il est inséré dans la fente du guichet automatique, l'affichage numérique révèle immédiatement la présence d'un lecteur de cartes supplémentaires. James Lila est détective à la police de New York.
Je suis impressionné par le travail qui permet de détecter les périphériques suspects.
Les pièces pour la fabrication du détecteur de lecteur de cartes coûtent environ $50. Toutefois, ses inventeurs disent vouloir le rendre moins cher et plus petit, de sorte que des agents de police puissent l'utiliser quotidiennement.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la déshydratation.
Il s'agit d'un état physiologique qui survient lorsque l'organisme perd des liquides corporels du fait des maladies ou des conditions climatiques sévères.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Lumbala Jean-Pierre, médecin généraliste en RDC, qui nous parlera des causes, des manifestations et des mesures pratiques pour faire face à la déshydratation.
Nous écouterons aussi 2 autres spécialistes en RDC, le docteur Paluku Mulumbirwa, qui nous parlera du sel de réhydratation orale, une solution souvent utilisée pour réhydrater le corps. Un autre spécialiste, le docteur Blaise Kangano, nous parlera du traitement de l'eau qui doit être potable pour éviter des maladies hydriques.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
So we turn it up, yeah, we turn it up. Ain't got no tears in my body, I ran up a boy, I like it, I like it, I like it. No matter how, what, who drives it, we out here riding, we riding, we riding. Even when it's raining down, can't stop us but your mouth. And if you don't know the name, yeah.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.